sommes en direct de Saint-Imier, du moins moi je fais la diffusion ici à Paris. Et donc le son passe déjà et dans très peu de minutes vous aurez l'émission en direct avec Guy pour l'émission espérantiste. Bonne écoute.
Donc, saluton al ciui, yen Radio Esperanto, en la cadre de Radio Libertaire, ogdek nao como gvar mega herzoi. Donc, yen ni a Esperanto el sendo, Radio Esperanto, en la cadre de Radio Libertaire, ogdek nao como gvar mega herzoi. Kai odiao ni havas tiun el sendon, kutiman, ciu vendrede, kutime en Pariso, en la stazio Parisa, kai ni estas en Satimie. Do recte de tiu loco ni faras tiun el sendon kun acceptai invitoi. Et bien donc voici Radio Esperanto dans le cadre de Radio Libertaire. Et aujourd'hui, et bien exceptionnellement, l'émission se fait en direct de Saint-Imier, de coutume, émission station parisienne, par le net, donc émission pour toute la planète, on va dire, et puis sinon en FM, et bien sur la région parisienne. Voilà. Yen kai odiao ni ricevas du invititoin citie kai unue almenau unu kiu devos fuggi ni diros rapide por partopreni al ia grava afero kiu okazas citie en Saint-Imier do temas pri Kozuke kai pri Victor. Donc Kozuke même racontos iomete pri lia voyo persona voyo concerné Esperanton kai bah ni tuj intervenos. Et bien donc aujourd'hui dans les studios deux invités exceptionnels, donc Kozuke qu'on va interviewer tout de suite parce qu'il doit participer à une conférence dans un petit quart d'heure, donc on n'a pas énormément de temps. Et puis notre ami Victor aussi qui va vous raconter de où il vient et puis comment il a rencontré l'espéranto. Voilà. Saluton, Kozuke. Ni antaŭ parolis, ni ne kaŝos tion. Kaj ankaŭ mi ne diris ke Philippe, Philippe partoprenos.
Ah, tu es sympa. Parce que moi, je parle pas l'espéranto, mais j'avais compris.
Yes, c'est ce qu'a mi do intensis finition fini la scène d'Antiel en caro salutante Anne qui est en Pariso kai do saluton Anne kai aliai qui do déjoras on ne diras laboras en esperanto on ne diras déjoras en la Parisa stazio porque estu tiu el sendo
kai la aliai
en caro d'un vartagoy. Donc on va tout de suite remercier et dire que Philippe participe aussi, donc on est quatre ici à l'émission. On va remercier Anne qui est dans les studio
qui nous assure la rediffusion depuis qu'on a commencé ici.
Anne, voilà, tout le monde ici eh bien, te salue et puis d'autres qui participent durant ces quatre jours qui vont se relayer. Ici, toute l'équipe technique qui est derrière et qui est très très connue des habitués donc de la station Radio Libertaire.
Je vous salue tous.
Kozuke, do saluton, kai tu vi povas do rapide compreneble raconti al ni via propra via propran rencontigion kun Esperanto. Eĉ se vi ne havas grandan experimenton pri Esperanto, kaj vi povas fari tion en franca lingvo, kaj tiel mi tradukos. Ne eble ne la tuton, sed mi faros almenaŭ taŭgan tradukon. Voilà, donc Kozuke va nous raconter son parcours, comment il rencontre l'Esperanto, voilà, et puis actuellement...
Par exemple.
Oui, il va nous dire d'où il vient, comment il reconnaît l'espéranto. Et puis moi, bien, je ferai une petite traduction rapide pour que voilà. Non, et lui, il va parler aussi beaucoup en français parce que l'espéranto, il n'a pas de pratique courante non plus. Mais c'est pas grave, voilà.
Alors, saluton. Alors, kiel vi fartas, mia nomo Kozuke, mi estas japono. Mi estis en Tokyo.
Yes.
Alors, excusez-moi, donc voilà, je ne peux pas continuer la suite parce que je ne connais pas encore bien l'espéranto. Donc,
par contre, tu as l'air de connaître bien le français.
Ah, oui. Oui. Donc voilà, donc je...
De Tokyo alors, oui.
Oui, de Tokyo, oui. Donc je vais vous raconter un peu donc, comment j'ai rencontré l'espéranto ou comment ça représente l'espéranto au Japon.
Oui.
Donc voilà. En fait, j'ai appris l'espéranto il y a 3 ans. J'ai fait juste l'initiation d'une année. Mais en fait, j'étais bien intéressé par cette langue. Mais ce qui est intéressant d'espéranto, c'est que ce n'est pas une simple langue. Vous savez, quand vous apprenez l'espagnol, le russe, vous apprenez peut-être parce que vous devez partir pour faire des études, pour travailler, ou pour les zones de tourisme. Mais l'espéranto, il demande peut-être certains, quelque sorte d'engagement. Il y a certains, l'histoire ou la philosophie derrière. Et en fait, pour les Japonais, l'espéranto représente comme une sorte de, un peu comment dire, langage, langue un peu politisée, politique.
C'est quand même une des raisons pour lesquelles on fait de l'espéranto, mais on est quand même assis à Saint-Imier,
oui,
sur une rencontre internationale anarchiste.
Oui, bien sûr.
Il n'y a pas de hasard, quoi.
Non. Il n'y a pas d'hasard.
Il n'y a pas de hasard du tout là-dedans, puisque par principe, l'anarchisme est internationaliste.
Oui.
Donc, c'est vrai de vous voir ici, oui, venant de pays différents, et de dire que l'espéranto a une portée politique,
oui,
on le voit matériellement ici.
Voilà. Donc moi j'ai appris l'espéranto dans un petit immeuble qui était en fait, nous avons, bon, notre école, le professeur, donc c'était une dame de 60 d'années, elle n'avait pas l'école, elle utilisait l'école de Go un samedi matin. Et je me demandais pourquoi je suis venu chaque samedi matin, je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, j'ai compris pourquoi je devais y aller. Bah, pour vous rencontrer, peut-être. N'est-ce pas ? Donc voilà, je ne regrette pas d'avoir fait ce choix d'apprendre cette langue. Bon.
Donc, alors, il y a facté kozuke, donc, la riga salni, qu'elle y lernis esperanto, dum ono u yaro, en yalapanio, char, doli, estas yapano, kai Philippe, faris la demandon, do diris, do chu estas azardo, pri tiu lernado de esperanto. Kai kozuke respondas, que facté, kiam en yapanio, kiam oni lernas esperanto, tiu avas politikan signifon. Kai yes, ne estas azardo ke odiao kuzuke trovidjas en Saint-Imier. Voilà.
Donc je peux continuer?
Mmh. Ouais.
Donc je fais un peu de bref parce que peut-être c'est une bonne occasion de partager l'histoire de l'espéranto au Japon. Donc j'ai fait un peu de schéma vite fait. Voilà ce que j'ai dans mon cerveau. Mmh. Voilà. En fait, l'espéranto, au Japon aussi, il y a une, comment on appelle ça, association d'espéranto, c'est l'Institut de l'espéranto japonais, qui a été fondé en 1926, avant la guerre. Mais l'histoire de l'espéranto est plus longtemps que ça. En fait, ça a été, comment on dit, apporté au Japon le début du XXe siècle. C'était un écrivain qui s'appelle Futaba Teishime. Il est très connu au Japon parce que c'est lui qui était le précurseur de l'écriture, comment dirais-je, orale. À l'époque, au Japon, on écrivait, il y avait les distinctions entre l'écriture écrite et langue parlée. Donc lui, il a unifié, il a essayé de, comment dire, intégrer ces deux. Et cette personne, en fait, il était bien, comment dire, spécialisé en Russie. Et il était spécialiste de la langue russe et il est parti en Russe aussi, en Russie. Et c'est là qu'il a rencontré cette langue. Notamment par le biais des activistes de l'époque. Et quand il est revenu, il a amené donc cette langue. Et ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, que cette langue pour les Japonais semble un peu politisée, et ben, je parcours même de cette histoire, ça montre bien. Cette langue, en fait, était apprise par notamment les intellectuels un peu révolutionnaire, ou soit plutôt engagé, ou je peux même dire plutôt gauche. Et il y a aussi les anarchistes. Nous, quand on entend peut-être l'espéranto, peut-être la première personne qu'on imagine, c'est cette personne-là. Il s'appelle Sakae Osugi. C'est, comment on appelle ça, le personnage représentatif ou emblématique de l'anarchie japonaise. L'anarchisme japonais.
C'était à quelle époque ça? C'était vers les années 20.
Des années 20, exactement.
Il y a eu un mouvement anarchiste, voilà, très très important à cette époque-là,
voilà,
qui s'est très mal terminé pour les individus, de toute,
voilà,
façon.
Donc.
Et donc, il y a une relation directe quand même avec l'implantation et de l'anarchisme et de l'espéranto.
L'espéranto. Par exemple, cette personne-là, il était, bon, étudiant de la langue française, donc il parlait très bien français. Et en fait, en vérité, en fait, il est venu en France aussi. Il faisait les discours dans une rassemblée en français, sans interprète. Et cette personne, il a rencontré l'espéranto, il a commencé à apprendre en 1905 ou quelque chose. Et déjà, en 1908, il commence à apprendre cette langue à un étudiant chinois. C'est intéressant. C'est que la langue était apportée à peu près de 1902. Et au bout de 6 ans, Osugi, il commence à apprendre aux autres. Ça veut dire que, voilà, vous savez, le lien très fort entre l'anarchisme, ou soit le pensée révolutionnaire, avec cette langue au Japon. Ce qui était intéressant au Japon, il y a un cas très intéressant, c'est que cette langue n'était pas seulement apprise par les intellectuels. Au début, c'est vrai que c'était l'intellectuel qui apprenait. Parce que pour nous, les langues occidentales, c'est quelque chose de, comment dirais-je, intellectuel, ou ça plutôt pédantique. Voilà. Mais entre les années 20, il y avait une religion qui s'appelle Omotokyo. C'est une sorte de secte.
Oh. Mmh.
Il y avait beaucoup de croyants, non seulement parmi les peuples, mais plutôt des hauts fonctionnaires, les militaires. Et cette religion-là, le fondateur, le gourou, a décidé d'adopter l'espéranto comme la langue de sa religion. Du coup, tous les sutras, tous les sermons étaient écrits en espéranto.
Et ça touchait une population importante ?
Ça touchait une population importante. Cette religion était, en fait, avant la guerre, représentait pas mal de, en fait, parties parmi le monde religieux. Mais malheureusement, pendant des années 30, le militantisme monte et il y avait les pressions, comme on dit, on abolissait les pensées qui n'alliaient pas avec l'idée du gouvernement. Donc, Omotokyo, dans cette religion qui adoptait l'espéranto, a été, comme on dit, abolie ou interdit. Donc, cette tradition de, comment dirais-je, écrit les sutras en espéranto, a été disparu aussi avant la guerre. Et nous rentrons dans la Seconde Guerre mondiale. Et après, il y a un autre courant qui apparaît.
Oui. Il m'était très de cause dire. Oui. Donc, facté, Osuke Faras, la historienne des espéranto en japanio, qui a manieré espéranto alvenis en japanio, kai do li parolis pri femme konatuloi, qui ouï enirigis esperanton en la tuta lando sur la, diru, la politica campo. Kai poste Osugi, li parlo aspri Osugi, qui ouï estis en la en francio ni diras aspri en tiu secto Omoto. Kai yes facte, char mi ancao antao dudeki aroi en diversai congressoi de SAT, mi rencontis adeptoin de tiu secto, kai mi relatis en japanio kun iu sectulo, facte, amico ancao, sed mi ne povis segvi la correspondadon, char tiu voio estis por mi necredebla kai necomprenebla. Voilà, il y a donc, on peut se remettre à des ouvrages qui existent parce que ici, notre ami Antonomo, Osuke, Parolas parle donc ici de toute l'histoire donc de l'espéranto qui rentre au Japon avec les intellectuels et puis après il passe à Osugi. Et par la secte Omoto et la secte Omoto, il y a encore une vingtaine d'années, dans les congrès de SAT, on rencontrait encore des gens qui venaient pour participer au congrès. D'accord. Mais enfin, tout le monde peut venir et adhérer au congrès. Et moi, j'ai connu justement un adepte de secte du Japon. J'avais rencontré dans un des congrès en Europe. Je suis entré en relation avec lui. Donc, il m'a envoyé des lettres, j'ai répondu. J'ai pas pu suivre, quoi. J'ai pas pu suivre, pas seulement l'abondance du courrier, mais j'ai pas pu suivre les voies sur lesquelles il était, quoi, où il m'emmenait. C'est que pour moi, je sais pas, quelque chose vraiment
C'est curieux de considérer l'espéranto comme voie divin.
Et oui, oui. Et en espéranto, ou sans espéranto, effectivement. Et alors donc, tu as dit que l'espéranto, mais je ne l'ai pas dit en espéranto, facte, tiu homoto religio, estis mal permissita, antao la duamon milito, cae poste, venis la duamon milito, cae estas alia afero.
Donc je continue. Oui. Donc après, donc le premier, donc je vous ai dit tout à l'heure qu'au début c'était intellectuel. Après il y a Omoto, donc ça a été un peu popularisé.
Oui.
Et après la guerre, c'est vrai qu'il y avait certains mouvements qui cherchaient à populariser la langue japonaise. Il y a beaucoup de caractères chinois et il y a beaucoup de tournures un peu difficiles. Et il y en a certains donc qui tentaient peut-être de faciliter le japonais par le biais d'espéranto. Mais ça a été vite, disparu. Mais la tradition de l'espéranto restait toujours chez les académiques. Et il y a un ethnologue qui s'appelle Umesao Tadao. C'est un ethnologue japonais qui a fondé le musée national de l'ethnologie au Japon. Lui, par exemple, il a sorti de la fac pendant des années 40. Il a écrit son mémoire en espéranto. Et ce qui est curieux, c'est que le professeur a accepté. Bon. J'imagine si je fais la même chose actuellement, est-ce que les professeurs accepteraient de lire? Ils vont dire peut-être, mais qu'est-ce que c'est cette langue?
Et puis donner une traduction, ils vont
demander. Ouais, ils vont demander une traduction sans doute. Mais bon, à l'époque, donc voilà, il y avait certains atmosphères qui considéraient l'espéranto comme une langue académique ou intellectuelle, ou ça peut être plus divers que ça. Et ça a été, parmi de déposer son mémoire en espéranto. Et bon, donc actuellement, c'est vrai que malheureusement, l'espérantiste, le nombre d'espérantistes se réduit au Japon. Et en plus, il y a, la génération, c'est plutôt, donc voilà, l'espérantiste japonais, c'est plutôt la génération qui a connu cette époque où l'espéranto était considéré langue académique. Et il y a moins en moins de jeunes qui participent. Donc voilà. Mais à côté de donc, cet apprentissage ou les pratiques de la langue, curieusement au Japon, japonais, ils aiment bien cette langue finalement. Vous savez comment on dit yaout en espéranto?
Non.
Yaout.
Qu'est-ce que ça veut dire yaout?
Yaout en français, c'est yaout. Mais en espéranto, comment on dit yaout pour manger?
Ah, yaout. Je sais pas.
Yaourt.
Oui, en français yaourt, mais.
En espéranto, non.
Yogurto.
Yakuruto.
Oui.
Yakuruto.
Oui. Yakuruto.
Au Japon, si vous prononcez Yakuruto, c'est en fait un nom d'une entreprise qui produit en fait une sorte de boisson à la base du lait fermenté.
Ouais.
Et l'entreprise en fait prit son nom par l'espéranto, qui veut dire yaourt. Ou sinon, il y a par exemple Honda qui fabrique des voitures. Il a fait une voiture qui s'appelle Ferio, Jus Ferrier. Voilà. Donc, parce que en fait, les Japonais, il y a certaines attaches à l'occidental, mais eux, ils ont certains systèmes de prononciation. Nous avons toujours le syllable et voyelle. Et l'espéranto, il ressemble plutôt à ça que les autres langues. Donc, il y a toujours le syllable et voyelle. Donc, on est un peu, familialisé cette sonorité. Donc parfois, on utilise ça pour les noms d'entreprises, noms de produits, ou sinon parfois les écrivains qui utilisent pour inventer les noms de rues, des villes ou personnages, pour donner certaines images un peu fantastiques. Et voilà, donc il y a certains usages d'espéranto qui restent toujours dans notre culture.
Mmh. Oui, il y a toujours des traces qui sont un peu de partout.
Il y a Miko Kozuke, facté parole esprit. Post la doua monde milito parole esprit ou famulo qui ou faris tiun mémoire lian sian mémoiron en esperanto kai tiu estis acceptita et do tiu estas necredebla nun sed yes li successis fari tion li avis tiom da famezzo e diru che li povis fari tion Yes, il pravas en cao dirante que estas multai firmaoi, si parolas pri yogurto, sed qui est un nomo en cas où est-il sous état des Japana firmao por vendi ti un manjajon sed estas multaj automobiloj mi rimarkas tion en la surstrate qui est ce nomo estas venas de Esperanto estas espero onda espero estas onda ferio c'est diris kaj aliaj estas multaj aliaj Mercedes Vito estas estas ankaŭ esperanta nomo estas multaj nomoj kiuj estas prenitaj ankaŭ ĉar ili ŝajnas por la aliaj sonas internacia voilà
On connaît un petit élément pour conclure.
Oui, peut-être. Oui.
Donc voilà, c'est l'émission d'Espéranto, oui. Mais je veux bien vous apprendre une phrase en japonais.
Ah oui, oui.
Alors, oui. Disons, D-O-M-O. Domo.
Oui, oui.
Qu'est-ce que ça veut dire en Espéranto ? Domo. Domo, la maison ?
Oui, oui.
Domo. Mais en japonais, si vous dites domo, ça veut dire bonjour, merci, au revoir, enchanté et tout.
Et ben voilà.
Donc je vous dis à tout le monde, domo.
Domo.
Bon, bah alors, maison.
Merci.
Kai jis reaodo.
Jis le vido.
Jis.
On se met un petit morceau de musique.
Oui, tout à fait, oui.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Donc toujours émission autour de l'espéranto en direct de Saint-Imier. Et justement, il y a un compagnon et une compagne qui nous ont rejoints, qui au début de l'ouverture de ces 4 jours à Saint-Imier, a déclaré un texte que j'ai trouvé intéressant. Et si c'est possible de le relire ici, je pense que ça repositionne bien l'espéranto dans le mouvement. Et pourquoi l'espéranto est bien à Saint-Imier par rapport à des rencontres anarchistes?
Voilà, donc Philippe Factejus Clarigas, qui est li havas texton, qui li desiras, qui est chitié, ni amico jomo, liguti un articolon pri Saint-Imier.
Ne nur mi legos la la texton sedan kau mia camaradino
Manon.
Ge camaradoi, je la nomo de sat liberezzana fraccio, ni felice donas fratezzain cae solidarezzain salutoin al ciui partoprenantoi, gruppoi cae organizajoi, citie en Sanctimiero dum tiuci historia evento. Ni, anoi de la liberezzana fraccio, usas internazian lingvon, Esperanto, kiel ilo por kunigi kaj kunlabori kun anarkistoj el diversaj landoj. Ni sekvas spurojn de geantaŭuloj kiel la japanaj kaj ĉinaj anarkistoj en la frua dudeka jarcento, tiuj kiuj en Amsterdamo proponis utilon de Esperanto dum 1907 Internacia Kongreso de Anarkismo. Tiuj diversaj kompanoj el Eŭropo kaj alia kontinentoj, kiuj fondis tutmondan lingon de esperantistoj sen ŝtatanoj dum la dudeka jardeko, kaj klasbatalemaj esperantistoj, kiuj fondis nian internacian kaj sennacian organizaĵon de laboristoj, sennacieca asocio tutmonda, en 1921, kiu inkluzivas la liberecanan frakcion mem. Voĉa ĉanĝado.
Tamen, ni ne plu parolu pri pasinteco, sed pri la nuno kaj estonto. Dum kapitalismo regas kaj krizas tutmonde, ni ĉiuj scias, ke nepras organizi tutmonde. Ni ankaŭ bone scias, ke certaj lingvoj, ekzemple la angla, jam sufiĉe sukcesis kiel internacia aŭ eĉ kolonia lingvo de komerco kaj kapitalo. Sed hodiaŭ ni ĉiuj evidente povas paroli kune per multnombraj tradukantoj aŭ pli neformala fuŝkomunikado, kaj tia interkompreniĝo evidente estas ege kompleksa kaj mensbaŭma afero. Plie, por lerni iun ajn nacian lingvon je sufiĉe bona nivelo, ja povas esti malfacila, eĉ peniga tasko, kiu bezonas tempon, paciencon kaj studadon, ne malofte monon kaj sufiĉe bonan nivelon de edukado. Male, por lerni Esperanton, ebla lingvo de internacie pensantaj, ribelemaj kaj anarkiemaj laboristoj bezonas nur malgrandan frakcion de tia laboro. Do, Esperanto daŭre vivas en nuna laborista movado kaj nuna arkiisma movado. Sciu, ke ĉiuj partoprenantoj ĉi tie estos bonvenaj paroli al ni, liberecanaj frakcianoj, dum la venontaj tagoj, kaj se oni volus trovi informojn pri liberecana frakcio, SAT kaj laborista Esperanto-movado, estu bonvenan. Vivu anarkion!
On va peut-être avoir une petite traduction, parce que oui. Je ferai remarquer que à l'ouverture de l'IFA, de l'international, tu l'as fait en français.
Oui. Donc, je l'ai lu en français tout simplement parce que on n'avait pas à ce moment-là tous les camarades, enfin les autres camarades espérantistes n'étaient pas encore là, si bien qu'il aurait fallu que je fasse ma propre traduction, ce qui donne moins de sens à la chose.
Oui. Donc je vais vous donner une traduction de ce texte. Je peux le faire. Ouais. C'est même déjà en français. C'est incroyable, incroyable. Donc,
Oklingva.
Voilà,
la flugile.
Alors, il faut dire qu'aussi, on peut peut-être remettre dans le contexte il y a deux jours, oui. Où en effet, il y a eu plein d'intervenants de compagnons de beaucoup de pays, et il y a eu des problèmes de fait de traduction, puisque on n'a pas pu mettre en place ici des cabines de traduction pour des raisons financières, bien évidemment, parce que là, c'était complètement délirant. Donc, il y avait un peu de traduction, et quand il y a eu débat après, c'était très, très difficile de participer au débat, puisque de toute façon, moi, je suis resté un moment. Des compagnons ont commencé à parler soit en italien, soit en portugais, soit en espagnol. Il y a eu des échanges. Et bien sûr, moi, j'ai complètement loupé
tout ce qui s'est dit. Par contre, après, il y a eu un échange énorme qui était en français et plein de compagnons partaient. Donc, c'était un peu dans ce cadre-là qu'était présenté le regret de que l'espéranto ne soit pas plus utilisé dans ce genre de rencontre.
Voilà. Donc, eh bien, voici ce que dit ce communiqué. Ici, donc à Saint-Imier, au nom de la fraction libertaire de SAT, nous adressons chaleureusement nos salutations fraternelles et solidaires à tous les participants, groupes et organisations présents à Saint-Imier pour cet événement historique. Alors nous, membres de la fraction libertaire, nous nous servons de la langue internationale espéranto comme outil pour nous réunir et collaborer avec des anarchistes de divers pays. Nous suivons la trace de nos prédécesseurs, tels que des anarchistes japonais et chinois du début du XXe siècle, de ceux qui, à Amsterdam, ont proposé d'utiliser l'espéranto pendant le Congrès international anarchiste de 1907, de ces divers compagnons d'Europe et d'autres continents qui fondèrent la Ligue universelle des espérantistes anti-étatiques, qui est connue encore sous le nom de TLES, hein, alors durant les années 20, et des espérantistes s'inscrivant dans la lutte de classe qui ont fondé notre organisation internationale et anationale des travailleurs, l'association mondiale anationale SAT en 1921, qui inclut la fraction libertaire. Alors, Là, à ce titre, il y a un document, donc ici, sur le stand de l'espéranto, hein, le stand de SAT, de la fraction libertaire de SAT, qui parle de tous ces moments historiques entre les libertaires, les anarchistes et l'espéranto. Alors, ne parlons cependant plus du passé, mais du présent et du futur, tandis que le capitalisme en crise règne partout dans le monde. Nous savons tous qu'il est nécessaire de s'organiser à l'échelle mondiale. Nous savons bien aussi que certaines langues, comme par exemple l'anglais, ont déjà un relatif succès comme langue internationale ou même comme langue coloniale de commerce et du capital. Aujourd'hui, nous pouvons évidemment tous parler ensemble par le biais de nombreux traducteurs ou autres communicateurs informels, de mauvaise qualité, mais cette incompréhension est évidemment une source très complexe et nerveusement fatigante. De plus, apprendre n'importe quelle langue nationale à un niveau suffisamment bon peut s'avérer être aussi eh bien, très difficile, voire même une tâche pénible qui nécessite du temps, de la patience, beaucoup de travail, bien souvent de l'argent et un niveau d'éducation suffisamment élevé. Alors au contraire, eh bien, l'apprentissage de l'espéranto, langue qui pourrait être celle des travailleurs et travailleuses rebelles, des anarchistes et ceux qui pensent internationalement, ne nécessite qu'une petite partie de ce travail. Alors l'espéranto continue à vivre dans les mouvements ouvriers et anarchistes actuels. Tous les participants sont invités à venir nous rencontrer. Nous, membres de la fraction libertaire, durant les prochains jours, et si vous désirez des informations sur la fraction libertaire, sur SAT ou sur le mouvement ouvrier espérantiste, eh bien, vous serez les bienvenus, soyez les bienvenus, vive l'anarchie. Kaichitie, kun ni amico Victor, ni povas fari proponon por morgao.
Ok, alors à tous, saluton al ĉiuj. Mi estas Victor. Mia nomo estas Victor Bosniak. Miaj gepatroj estas de Bosnio.
Yes. Sed Victor, eble ci parolos poste pri tio, sed por anonci ke morgaŭ ni deziras kunveni.
Ah, ok.
Kaj poste ni havos alian intervjuon.
Ok.
Ouais, donc Victor tout de suite est parti sur son histoire avec l'espéranto, voilà. Mais je voulais que tu dises ce qu'on a décidé pour demain et si on verra s'il y a un écho favorable.
Ni volas fari renkontiĝo, voilà, kun esperantistoj. Mi volas inviti ĉiuj ke volas paroli, diskuti de Esperanto. Ankaŭ se vi ne parolas Esperanton.
Estas favoraj. Voilà, donc Victor eh bien, nous dit que demain, on a décidé à 15h, si ça convient à la plupart, yes. Que tous ceux qui sont espérantistes ou non espérantistes, mais favorables à l'espéranto ou qui s'intéressent donc, à ce problème de langue, eh bien, se réunissent, viennent peut-être au stand. Donc,
Ni volas rekontiĝi eble en l'espace noir.
Ouais, espace noir. Ouais. Voilà, espace noir, et puis on trouvera un endroit pour... voilà.
Oui. Alors moi, je voulais juste poser une question par rapport à tout à l'heure, parce qu'il y a des mots qui sont sortis, mais des mots que je n'ai pas compris. Ils étaient en français. Par exemple, vous parlez de la fraction. SAT, la fraction libertaire anarchiste. J'aimerais bien avoir un peu de renseignements, parce qu'on l'a dit, c'est dans vos textes. Guy, tu en as parlé sous cette forme-là, et je voudrais avoir une petite explication de ce que c'est, et peut-être une petite explication historique, parce qu'à chaque fois on parle de ça. Est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi une fraction réactionnaire dans l'espéranto ?
Non, non, non. C'est-à-dire que l'association SAT, qui a été créée donc, on dit là, en 1921 par Eugène Lanty, Eugène Adam, Lanty, il était anarchiste, donc anti-tout, et il s'est fait lui-même désirer même qu'on l'appelle Lanty, officiellement hein, d'ailleurs, créer l'association 1921, et il désire que l'association soit pluritendancielle. Voilà. C'est-à-dire qu'à SAT, eh bien, il y a une fraction communiste, il y a une fraction des libres penseurs, il y a une fraction pacifiste, il y a une fraction libertaire. Voilà, il y a plusieurs fractions, et peut se créer.
J'arrive pas à comprendre alors, la notion de fraction, alors que l'espéranto serait plutôt un regroupement.
Toutes ces personnes ont l'espéranto comme langue commune pour pouvoir travailler, puisque ça travaille au niveau, culturellement au niveau international, mais ne s'occupe pas de l'espéranto. La diffusion d'espéranto, c'est d'autres associations. SAT utilise l'espéranto pour pouvoir avoir travaillé au niveau international. C'est juste le moyen pour travailler au niveau international sur divers sujets, comme les sujets d'armement, de nucléaire, etc. Sur tous les grands sujets.
SAT, c'est qui ?
Alors, SAT, c'est une association. Faut dire les mots en espéranto pour bien comprendre.
Oui, bien sûr.
qui regroupe des progressemuloj. Progress, c'est le progrès en espéranto. M, c'est qui a tendance à. Oul, c'est l'individu. Et oi, c'est pour dire c'est le substantif pluriel. Donc en gros, ce sont des individus qui vont vers le progrès. Si bien que se retrouvent là-dedans plein de gens qui sont globalement plutôt à gauche et qui ont des buts. En espéranto, clérigai. Clera, c'est culturel ou éclairant. Parce qu'il y a chez SAT des buts qui sont à la fois culturels et aussi des buts, on va dire, de confrontation des analyses. Si bien qu'à SAT, on n'est politiquement pas tous d'accord, mais on peut dire cependant que il doit vraiment pas y avoir de gens de droite.
Oui, c'est une notion de progrès, pas de progrès comme on l'entend technique ou des choses dans ce genre-là. Non. C'est ce qu'on appelle les progressistes.
Voilà.
C'est-à-dire pour le progrès de l'être humain.
Voilà. Oui. Voilà. Oui. En général. Et si bien que à SAT, alors pour reprendre une autre notion toujours dite en espéranto qui permet d'éclairer. Sur ce qu'a dit Guy, SAT se définit comme une association per Esperanto et pas une association por Esperanto. Per Esperanto, ça veut dire que l'on utilise l'espéranto que l'on fait vivre à l'occasion pour des buts qui sont simplement qui sont autres, en l'occurrence culturels.
C'est un outil.
C'est un outil.
C'est un outil, c'est tout.
Et surtout, c'est un outil qui permet de confronter les points de vue, y compris venant d'autres cultures, donc qui fonde une culture laborista, une culture de travailleurs.
Oui, c'est pour ça que quand tu dis... Parce que moi, j'avais dans la tête la notion d'apolitique, mais ce n'est pas vrai.
Non.
Ce n'est pas du tout. Parce que quand tu parles de progrès, quand tu parles de travailleurs, ce n'est pas politique.
Exactement. SAT se définit comme une association laborista. Je dois cependant reconnaître, moi qui suis un jeune membre de SAT depuis à peine 2 ans, que je trouve que le laborista le côté association de travailleurs, c'est à mon goût, a dû probablement s'éroder un peu depuis 1921. J'espère que cela va se renforcer.
C'est ce que nous disait un peu le camarade japonais qui était là, qui disait que c'était avant tout des gens d'un certain niveau, de culture, ou ce qui nous expliquait un peu par rapport à l'espéranto au Japon. Et là, parce que quand on dit de travailleurs, moi je ne sais pas, je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de travailleurs justement qui parlent l'espéranto. Ce n'est pas une impression que j'ai de l'extérieur, hein, c'est tout, hein, c'est pas un jugement, c'est pas quoi que ce soit. J'ai l'impression que l'espéranto est actuellement plutôt quelque chose, pas d'intellectuel, ou au moins de personnes éclairées. Voilà,
je partage ce point de vue et je regrette que ceux qui sont espérantistes depuis plus longtemps que moi parlent au passé des ouvriers qui échangeaient en espéranto.
Oui, mais ça, cela dit, c'est une chose aussi qu'on voit dans beaucoup de mouvements politiques. Hein. C'est pas hors des réalités sociales des sociétés actuellement. Hein. Je veux dire, on sait très bien qu'actuellement, les personnes qui sont les progressistes, les plus progressistes actuellement, c'est quand même des individus qui ont une conscience de classe et pour faire avancer. On sait très bien que la conscience de classe, par exemple, dans le mouvement ouvrier, a baissé énormément. Moi, quand je regarde les résultats d'élections dans certains lieux, je me dis il y a des erreurs de classe sociale, très clairement. Quand je vois certaines personnes voter en France sur le Front National, il y a une erreur de classe. Quand on est ouvrier, le Front National, c'est grand capital, hein, quand même. Donc c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on retrouve peut-être l'espéranto, ce qu'on retrouve dans beaucoup de lieux, fait par des intellectuels, ou au moins des gens éclairés, ce qu'on trouve dans des syndicats, des gens qui sont déjà dans la lutte et qui veulent un outil. Voilà, c'est une idée que j'avais.
Juste une toute petite chose, c'est, tu posais la question sur les sections. Qu'est-ce que c'est que les sections au sein de SAT ? Ben, puisque justement SAT est, comme l'a dit Guy, pluritendanciel et qu'il n'y a pas a priori une seule tendance, SAT n'est pas anarchiste, SAT n'est pas communiste, on permet à ceux qui se reconnaissent dans une tendance de s'unir au sein d'une fraction qui agit en son nom propre, mais au sein de SAT.
Oui, ce pas des fractions d'opposition.
Ah non, ce n'est pas
des fractions
d'opposition.
C'est des fractions de regroupement sur...
C'est ça.
D'accord.
C'est
ouais.
Ça. Alors,
peut-être je vais vous lire, le traduire, la traduction est facile pour moi à faire, une traduction de Qui Vestas Sat, qui est parue dans un livre, donc... voilà. Alors, qui est SAT ? Donc, qu'est-ce que SAT ? Alors, ici, voilà. SAT, Association Nationale Mondiale, donc, est la plus importante organisation mondiale de travailleurs espérantistes. Elle est une association qui a pour but de faciliter les relations entre les langues, les relations internationales entre les langues, pour tous les individus qui luttent pour un monde sans classe ni d'exploitation d'autres types. SAT regroupe des personnes généralement d'opinion de gauche, de toute tendance idéologique, qui trouvent donc leur unité dans une action commune. En plus, SAT est, selon son nom, anational, c'est-à-dire que le fait de la nation, de l'État, des individus n'a aucune importance. Et l'association n'a pas de filiale nationale. Cependant, elle collabore à un niveau national avec des associations, ce qu'on appelle des associations de travailleurs espérantistes, donc des associations espérantistes qui informent les gens au niveau sur l'espéranto et qui leur enseignent l'espéranto. Et qui fournissent donc des membres pour l'association SAT. Alors, en un seul mot, SAT a pour but, par un usage constant de l'espéranto et son application mondiale, d'aider à la création d'esprits pensant rationnellement et capables de pouvoir comparer, de pouvoir comprendre et de pouvoir juger les idées, les thèses, les tendances par eux-mêmes et de choisir et d'être... autonome pour choisir la voie qu'ils pensent la meilleure pour la libération de leur classe et pour élever ces individus à un niveau de civilisation et de culture le plus haut.
Oui, alors c'est amusant parce que quand tu lisais ça, moi j'avais d'autres images.
Oui.
C'est le rousseauisme ou toute cette époque de la Révolution française où j'ai l'impression qu'on retrouve des choses sur la libération individuelle, sur la libération collective.
Oui,
Et je trouvais que le texte était proche de ces idées-là.
Oui,
c'est des choses qu'on retrouve au niveau du vocabulaire, au niveau des idées. Alors après, sur les fractions, bon, après on peut discuter sur comment on peut être à des fractions si différentes. Parce que quand on parle des fractions communistes ou des fractions anarchistes, certaine époque, ça devait être quand même plutôt difficile, puisque je crois que les anarchistes et les communistes ont eu des rapports un peu délicats pendant pas mal, surtout sur les années 20, pas mal délicats.
Oui, mais au sein de SAT, ça a été difficile. C'est peut-être ça se voit moins, c'est encore difficile. Voilà.
D'accord.
Voilà.
Ça se voit encore.
Oui, ça se voit encore. Bon, d'accord. Ça se voit encore.
Oui, non, mais justement, c'est parce que c'est très difficile de vouloir faire quelque chose à national, à idéologique, mis à part que c'est quand même des gens progressifs, progressistes, à la base, sachant que dedans, on retrouve des gens qui ne le sont pas. Mm-hmm. Les bolcheviques ne l'ont jamais été. Il ne faut pas non plus. Oui. Et donc, en effet, je pense que ça devait être très difficile. Bon, visiblement, ça l'est encore.
Alors, l'association est nationale dans son caractère, dans, sa structure et tout. Ce qui ne veut pas dire que tous les gens qui sont adhérents à SAT sont nationalistes.
D'accord, ok. Ouais. Alors, est-ce que ça veut dire, par exemple, on a vu le compagnon japonais, mais est-ce que, par exemple, en ex-URSS ou en Russie, il y a eu beaucoup d'implantations de l'espéranto, dans le sens où c'est vrai que ça pouvait produire des rapports un peu conflictuels?
Je ne sais pas si Victor...
Moi, je veux dire quelque chose.
Vas-y.
En français, c'est
bon, oui,
ça serait plus facile pour moi, franchement.
Moi, je ne suis pas de SAT, mais je suis content de rencontrer mes amis. Et pour moi...
Tu viens d'où, juste une... Parce qu'on l'a pas dit aux auditeurs.
Oui.
Tu viens d'où,
Victor?
Moi, je suis... Alors, mes parents sont de Bosnie.
Oui.
Et durant la guerre, nous sommes divantés, comme c'est dit.
Émigrés.
Croates.
D'accord.
Mais je suis né en Autriche.
D'accord.
Alors,
très simple.
Aujourd'hui, je pense que je suis un citoyen du monde. Et logiquement, quand j'avais 14 ans, j'ai pensé, si je veux être un citoyen du monde, j'ai besoin d'une langue.
Du monde, monde.
Et vous avez parlé d'espéranto. Je veux demander quelque chose à vous.
Ouais.
Est possible être antinationaliste ou anationaliste et dans le même temps parler la langue nationale? C'est pour moi complètement une contradiction. Et moi, je pense que nous avons besoin vraiment une langue auxiliaire. Je pense pas, je veux pas que tout le monde parle seulement une langue, non? Comme espéranto ou ido, réformation d'espéranto. Mais nous avons besoin vraiment d'une langue auxiliaire parce que je pense que la prochaine révolution verte doit être mondiale. Nous avons vu en Grèce, ils ont fait une petite révolution, mais des capitalistes des autres pays font pression.
Eux sont internationalistes. Le capitalisme est internationalisme de fait, de toute façon.
Ouais.
Et donc la défense doit être internationale. Alors sur le fait d'être internationaliste, en effet, et de parler qu'une langue est la langue dominante du pays, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je suis d'autant plus d'accord en disant que c'est pas... on peut parler toutes les langues qu'on veut, mais il faut qu'on trouve celle qui est commune, et celle-ci est commune. Donc c'est une langue en plus. Malheureusement, j'ai l'impression qu'actuellement, la langue en plus qui est en train d'être utilisée, c'est l'anglais.
Ouais. Non, c'est pas vrai. Non.
C'est pas vrai.
C'est pour nous, dans l'Europe. Mais il existe mandarin ou espagnol.
Oui.
Après, nous avons anglais. C'est pas vrai que tout le monde parle anglais.
Non, tout le monde parle pas anglais. Mais c'est vrai que, là, on le voit dans les différentes rencontres. Alors, bon, on est un Saint-Imier. Alors, c'est vrai que Saint-Imier, ça parle français. Donc, évidemment, on retrouve beaucoup de français, mais on trouve beaucoup d'anglais et d'espagnol. Ces trois langues qu'on trouve... tout le monde arrive un peu à échanger. Et je suis d'accord avec toi, c'est complètement occidental.
Et moi, j'ai vu aujourd'hui, hier, avant deux jours, que nous avons vraiment un grand problème avec la communication entre nous. Moi, je pense que nous avons pris plus de temps pour des traductions que pour quelque chose de productif, pour parler d'action directe, pour network, non? Connexion entre nous. Et je pense que quelque chose, nous devons changer. Et pour cette chose, j'ai décidé, avoir beaucoup de temps, comme je dis, de parler, apprendre espéranto. Moi, je parle un peu, je l'apprendrai pour 3-4 mois, et ça marche. Je parle avec tout le monde. Je parle avec des Japonaises en Japon, ou avec un Russe en Ivanov, je ne sais pas où est cette chose, ou avec un Espagnol de Malaga, ou un Brésil, comme se dit, Brésilien.
Là, par contre, tu parles en français. T'as mis combien de temps ?
Quoi ?
Tu parles en français actuellement.
Ouais.
T'as mis combien de temps pour apprendre le français comme ça ?
J'ai pas compris la demande.
Quel temps tu as pris pour... Oui, bah vas-y.
Ah non, mais j'ai...
T'as tempo pour... Vi besonis pour lerni la franzan.
Je l'apprendrai dans l'école 4 ans.
D'accord.
C'est un peu difficile de dire combien de temps, parce que j'étais en Afrique du Nord, au Maroc, un peu de temps... j'ai passé à mes amis au sud de France rafraîchir un peu la langue. Mais je parle 5 langues et je ne veux pas apprendre 180 langues. C'est bullshit.
Oui, non, mais c'est intéressant parce qu'on entend bien que l'espéranto, on peut progresser assez rapidement. Donc quand tu dis que toi, tu as mis 4 ans, à peu près, hein, approximativement, qu'une moyenne assez correcte pour apprendre une langue, il est évident que l'espéranto, on mettrait pas autant de temps.
Ah, alors, espéranto est très facile.
On met combien de temps, puisque vous en avez tous fait, on met combien de temps à peu près pour être capable de se comprendre ? Je ne dis pas parler parfaitement ou des choses dans ce genre-là, mais pour être capable d'échanger.
3-4 mois.
Manon ?
Moi, je dirais oui, peut-être 6 mois. Moi, après, pour devenir vraiment bilingue, j'ai mis 2 ans en espéranto, à peu près.
D'accord. Oui, mais ce qui veut dire qu'au bout de 3-4 mois, 5 mois, on est capable quand même d'échanger avec des personnes autres. Ouais,
ouais. Moi, je peux parler pour moi. Hein. J'ai mis 4 mois. Quand je dis 4 mois, c'est-à-dire que j'ai appris régulièrement pendant 4 mois, presque tous les jours. Et au bout de 4 mois, j'allais au premier congrès de SAT où on ne parlait que en espéranto. Et là, c'était le test. Alors au début, j'avoue que j'avais un peu de mal et je commençais à avoir peur. Puis je me suis vite rendu compte que c'était à cause de la qualité des micros. Et puis le jour suivant, c'était bon.
Donc ce qui veut dire, non, mais c'est simplement, j'utilise ça comme image de la capacité d'apprendre justement une langue par rapport à ça. Ah non ?
Oui, non, juste ce que je voulais dire. Alors, je ne vais pas dire que c'est vraiment simple d'apprendre l'espéranto. Ben,
c'est un travail.
Mais on va dire que c'est la langue la plus facile à apprendre. Voilà.
D'accord. D'autant plus quand on voit... sur des gens qui ont d'origine linguistique totalement différente, par exemple le compagnon qui est du Japon, avec bon, je dirais, probablement d'autres langues comme ça, sachant qu'au bout d'entre 4 et 6 mois, on est capable déjà d'échanger, c'est énorme.
Je veux dire une chose éventuellement négative sur l'espéranto.
Ah bah, quand même, un petit peu, hein.
Non, je ne pense pas que l'espéranto sera la langue vraiment internationale ou mondiale, parce que les langues qui sont influencées espéranto sont indo-germaniques.
Absolument.
Langues. Nous n'avons pas des arabes dans l'espéranto, et pas beaucoup de chinois ou mandarines, ou des langues africaines. Ça, ils sont beaucoup.
Oui, c'est une réaction occidentale, de toute façon.
C'est le pas juste dans la juste direction.
Mais tout est consentas kunvi.
C'est-à-dire ?
Je suis tout à fait d'accord avec lui.
Oui, puisque lors de la création de cette langue, il n'y a pas eu de reprise de toutes les langues mondiales de la planète pour créer cette langue.
Et c'était une volonté de Zamenhof, l'inventeur, de, disons-le avec des mots durs, de se placer sous la coupe de la langue la plus dominante à l'époque, en 1887, le français. Dans le but d'être compris par les puissants. Donc, puisqu'il faut, je crois, aussi critiquer l'espéranto, il faut dire ça. Il faut dire que le fait que, soyons précis, les radicaux qui constituent les mots du lexique sont puisés dans les langues latines, c'est ça précisément le reproche. Je pense que ça, c'est une faiblesse, mais exactement comme Victor, je pense qu'il faut faire vivre cette expérience parce que, comme tu l'as dit, ça va dans le bon sens. J'espère qu'un jour, on fera la même chose, une même invention, une même construction, si possible socialement maîtrisée, qui reprenne vraiment l'ensemble de toutes les langues de la Terre et qui aille encore vers plus de rationalité sur des points que je n'ai pas le temps de développer.
Oui. Je ne suis pas tellement d'accord. Mais
bon. Oui, bah, on va... Non, mais tu vas le dire. Juste une chose, par rapport aux racines ou des choses dans ce genre-là, on a vu quand même qu'au Japon, visiblement, les copains retrouvent quand même des choses dedans.
Oui, parce que l'espéranto, même si les racines, c'est à 60%, on dit 60%, c'est peut-être 65%, j'en sais aussi. Rien. Bon. Mais on va dire même, pourquoi pas 70% de racines latines. La méthode agglutinante de l'espéranto, la fonction que l'espéranto, c'est une langue non seulement agglutinante, mais aussi isolante, c'est-à-dire chaque particule qu'on met, tous les suffixes sur l'espéranto peuvent être utilisés comme mots aussi de manière intégrale, fait que cette langue eh bien, est très vite après, peut-être pas apprise, parce qu'il faut beaucoup plus de temps pour apprendre une racine, effectivement, comme je l'expliquais tout à l'heure, domo, c'est la maison, pour un japonais, domo, domestique et tout ça, ça ne lui parle pas au départ, il faut qu'il apprenne, il va peut-être mettre 2-3 mois de plus que nous pour apprendre, mais de toute façon, ils apprennent aussi maintenant l'anglais, donc ils y arrivent, l'écriture, elle est latinisée aussi en Chine, au Japon, etc., maintenant, on va dire partout, pratiquement dans le monde. Ils vont mettre un peu plus de temps, mais ensuite, pour former les mots, pour agglutiner, pour parler, pour donner une puissance à l'espéranto, parce que là où nous, on va dire par exemple, je sais pas, la porte de la maison ou la porte de la chambre, on peut le dire en espéranto et dire la porte de la chambre, et beaucoup qui sont d'expression de langue française le font, parce qu'on a ça dans notre cerveau.
Oui, la structure.
Mais en espéranto, on peut agglutiner tout ça. On peut dire par exemple, aujourd'hui il fait du soleil, on peut conjuguer la racine sun. Zamenhof a pris soleil, sun, la racine anglaise. On dit sunas, et sunas, ça veut dire aujourd'hui, il fait du soleil. Parce que as, c'est le participe présent, c'est l'indicatif présent. Donc, en plus, ça dit soleil,
aujourd'hui.
Ça dit aujourd'hui, et ça dit il fait du soleil. Voilà, donc, c'est d'une puissance, ça. Et moi, quand j'ai entendu ça dans un congrès, quand on m'a appris l'espéranto, on m'a appris l'espéranto, mais moi je l'ai appris d'une manière particulière, l'espéranto, parce que je suis vite rentré dans des congrès et tout ça dans le sujet, donc même avant de le savoir, j'étais confronté déjà à l'écouter, à essayer de le parler et tout. Et quand j'ai entendu Sunas, je l'aurais pas fait, quoi. Mais je suis déçu, parce qu'on le comprend. Même un espérantiste qui le fait pas, dans sa tête, parce que l'espéranto, quand on a les racines, on peut faire ce qu'on veut avec, si ça reste logique, hein. On met les affixes, hein, devant, derrière et puis tout, et puis c'est... On le fait, ou la racine elle est uniquement adjective et puis on ne peut pas faire grand-chose, ou elle est verbiale, on peut la manier, voilà, ou simplement comme le soleil, et ben on peut en faire tout c'est une phrase en fait. Aujourd'hui, il fait du soleil, quoi. Et ben sunas, c'est quand même puissant, ça.
C'est
comme quelqu'un qui a une machine à écrire et l'autre, il a un ordinateur, quoi. Hein. C'est,
oui, mais on a connu ça sur la sténo. Hein.
Oui, oui, voilà, oui.
On
oui.
a connu ça sur la oui, sténo oui. ou la prise ah, rapide oui. de la
Par
parole.
Par contre, à la fin de leur conversation, moi, je suis pas tellement d'accord, parce que je pense que toute une grande population, justement, de gens qui parlent des langues qui sont agglutinantes, hein, toutes les langues sont agglutinantes, mais plus agglutinantes que nous, et donc dans les catégories, comme j'ai dit tout à l'heure, langues isolantes, etc., l'espéranto, il est dans toutes ces classes-là, on n'arrive pas bien à le définir parce qu'il a toutes ces catégories-là de valeurs. Quand tous ces gens-là seront confrontés à l'espéranto, je pense qu'ils pourront aller. On va le voir avec la Chine, de toute façon, peut-être. Hein. Si elle tombe, c'est déjà en route, mais on ne sait pas. Enfin, on sait que c'est déjà en route parce qu'il y a des personnes espérantistes d'Europe qui sont là-bas et qui participent à des festivals de langue. Hein. Ils organisent aussi des festivals de langue là-bas. C'est grandiose hein, quand ils font des festivals de langue. Hein. Et. On va voir comment ça se... Mais sur la fin de leur discussion, quand il dit qu'il faudra un jour avoir un moyen de communication international et tout, peut-être l'espéranto, pour moi, c'est pas parfait, heureusement. Hein, c'est Umberto Eco, il a dit il n'y a pas de langue parfaite. Il a dit l'espéranto, c'est la langue la mieux faite au monde. Il dit que c'est plus les espérantistes que ça concerne, c'est les politiques. Bon, moi, je ne suis pas d'accord sur ce truc-là, mais enfin bon. Mais c'est quand même une langue... presque parfaite, on va dire. Un jour, il y aura sans doute un moyen de communication supérieur. Et tout espérantiste que je suis, je lâcherai l'espéranto pour prendre ce moyen de communication. Voilà.
Oui, bah, Victor, vas-y.
Je veux demander à mes amis quelque chose, parce que j'ai reçu quelquefois des critiques fortes, hein, que l'espéranto est une langue raciste ou sexiste. Non, nous avons ce problème avec... des subjects frato, fratino, patro, patrino. No, patro signifie père et patrino, mère. Et je veux demander, oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette chose ou comment vous réagissez à cette chose?
Manon, puisqu'il vient de parler justement de racines qui sont.
Oui, c'est dans la formation de l'espéranto même. Oui, donc, qui...
oui après, moi, je n'ai jamais vu trop là un caractère sexiste. Au contraire, on pourrait même se dire patro, patrino, c'est-à-dire que c'est le suffixe in qui ajoute la féminisation du mot. Ça veut même dire qu'on rajoute quelque chose. Donc, ça serait peut-être dans la tendance inverse.
Dans la tendance inverse, oui. Bon.
Moi j'ai un point de vue, alors Guy qui maîtrise peut-être l'espéranto depuis plus que moi me corrigera, mais voilà l'impression que j'ai. L'espéranto n'a que des mots qui, du point de vue grammatical, sont neutres. C'est-à-dire quand on prend patro, viro, qui veut dire homme, ou la tablo, tout ça c'est des mots grammaticalement neutres. Quand on dit homo, selon moi, pour ce que je comprends de l'espéranto, on dit aussi bien homme que femme. Et plus précisément, on ne dit ni
c'est
que c'est un homme, ni non. que c'est une femme.
C'est être humain.
Voilà.
Et on retrouve la soi-disant homme écrit en français avec un H majuscule et H minuscule.
Eh oui, bien, c'est justement là où j'en viens. C'est que, ensuite, Zamenhof, il a prévu une particule pour dire féminin. In, ça fait homme in. Il a prévu une particule pour dire masculin. Vir, ça se met au début, ça fait vir homo. Et puis il a prévu une particule pour dire les deux sexes. C'est gay. Gay homoi, parce qu'il faut le dire alors au pluriel. Bien. Maintenant, l'espéranto, c'est une langue vivante. C'est un embryon de 125 ans, mais il évolue.
Oui, c'est ce que nous disait Guy là, à l'instant.
Et il évolue à ce sujet-là en fonction des influences qu'il subit. Et c'est quoi les influences que l'espéranto subit? Mais c'est les langues patriarcales nationales oui. qui nous font croire que homo, c'est un mec, un homme, alors que si on veut dire que c'est un homme, il ne faut pas qu'on dise homo, il faut qu'on dise vir homo. Si bien qu'en fait, l'impression que j'ai, mais je l'expose pour avoir les avis des autres, l'impression que j'ai, c'est que l'espéranto est le contraire du sexisme, le contraire, hein. Ce racisme, il faudra qu'on m'explique ce que je n'ai pas corrigé, mais terminons là-dessus. Dans la mesure où il ne possède pas de genre grammatical et il peut exprimer pour toute idée l'absence d'expression du sexe, homo, le masculin, vir homo, le féminin, homino, ou la présence des deux sexes, gay homo. À partir de là, il me semble que c'est une langue qui est d'une richesse extraordinaire, cependant elle subit l'influence de personnes qui ne sont pas exigeantes du point de vue des luttes antisexistes, et qui font croire que homo, ou presidente, ou cassisto, homme, président, caissier, enfin comment on dit,
trésorier,
oui. Ce seraient des mecs, et qu'il faudrait dire homino, presidentino, et puis cassistino, uniquement dans le cas où c'est des femmes.
Oui, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a bien une dissociation. En français, il n'y a pas de dissociation. Le mot homme voulant dire l'ensemble, homme-femme, comme le homme voulant dire que le mec. Tandis que l'espéranto propose justement le vocabulaire, la possibilité de créer un vocabaire très dissocié, très clair.
De tout exprimer. Aussi bien l'indissociation, homo, que la présence des deux sexes oui. ou la présence d'un seul. Mais que par influence des langues nationales, on se retrouve à déformer cette richesse de l'espéranto, et ce qui ensuite ouvre le flanc à la critique en disant « Oh là là, vous êtes raciste », mais c'est les langues nationales qui induisent le racisme dans une langue qui ne l'est pas.
Excusez-moi, le sexisme, oui, on avait
dans une langue. Okay. C'est ma réponse.
Ouais, je vous propose qu'on se fasse un petit point de musique et puis on revient dans 2-3 minutes.
Prenu kontrau deprimiloin conversazio per ret camerau ciu vi computile per distagon ancorau ciu in evento in uno ni post telefon fotas ne plu rectreale se tro obiectivo vidas drogata popolo ne povas plu resisti sana zombio ciu nur povas egoisti forda problemo i vidatai tra la ekranoi oni diru che culpas externan danoi tamen vi sentas che politic promessoi ne solvos vian perturbon obsedan compulsain eble la solvo estu cion foriri stias mi kial vi necesas angori vidu cercaue cameraoi militistoi paperai virinoi reclam ecranoi bonvenon al urbo paranoia yeah. En mia telefon, alcan mia transport, cae mon cartoi, ciu montras mian locon, ciu portal tic em ne liras mian coconon, nu, ciu beson, ciu frifonas pion, ciu vere por mia securo, eblo ne timas cien citi urbo de beton, mi frenesigius pro igi ciel clon, mia sopiras foie, detrui cien citie, cri al ciu boie, contra o vivo machina, mi ne plu altenas la laudon de tecnologio, mal socia socio, ci celas penetrecion, la natur medion, cae nian personae sento, ed volas credigini che cion clarigas cienzo, ciel neniu faras ion, ciu ciu timas ciun, urbo paranoia, yeah.
Résumas
hein? Iomete.
Do
jen denove ni daŭrigas tiun elsendon pri Esperanto ĉi tie rekte en la urbo de Saint-Imier. Kaj jes, mi iomete en Esperanto resumos la dirojn de vi ĉiuj ĉi tie. Mi provos, ĉar mi iomete ankoraŭ havas tion en la kapo. Unue, Victor, kiu estas ĉi tie, do sin presentis kaj diris, ke li venas el Bosnio kaj naskiĝis en Aŭstrio.
Yes.
Kaj li havis demandon por fari al Philippe, kiu forlasis nin, ĵus, antaŭ la muziko, kaj li diris, ĉu oni povas fakte esti anarkiisto parolante naciistan lingvon. Kaj Philippe ne kontraŭdiris kaj do akceptis la pravon de tiu demando.
Jes kai poste la discuto estis pri la lingvo mem, pri Esperanto, ĉu Esperanto estas vere internacia lingvo, ĉu estas aferoj kiuj ni devas ŝanĝi en ĝi, kaj ni ĉiuj ĉi tie havis specialajn opiniojn pri tio. En la daŭrigo de tio, ni ĵus parolis pri tiu afero de en la konstruado mem de la lingvo pri tiu sufikso ino. Kaj mi mem ne same kiel Marion ĉi tie Manon ĉi tie do opinias ke la afero ne estas tre grava ke por inigi radikon oni uzas tiun sufikson in ĉar ĉef precize en sat ni havis dum longa tempo diskuton kun iu satanino en Japanio kiu devige rifuzis ke kiam oni parolas pri iu persono ke oni diru ĉu estas ino aŭ viro. Ĉar ŝajnas ke en Japanio oni parolas pri homo, sed ne pri speciale pri viro aŭ ino.
Virino, hein.
Effectivement, donc je vais le dire en français parce que j'ai fait un petit rajout à la traduction. Je pense que j'ai fait très rapide hein, de ce qui s'est dit. En fait, j'ai donné simplement le sujet de la discussion. J'ai pas du tout résumé en français la discussion, mais je disais que au niveau du dernier sujet qu'on a parlé sur ce petit sur le suffixe donc ino que l'on utilise en espéranto pour marquer le sexe féminin. Il y a eu une discussion justement à SAT il y a quelques années, une discussion qui a duré mais sur presque sur un an par petits bouts là comme ça, avec une espérantiste de SAT justement au Japon qui nous a signalé qui se mettait en colère à chaque fois que justement on faisait cette particularité sur une personne quelconque de dire sur sa fonction de travail, peu importe quoi, mais pour déterminer, on mettait si c'était le sexe mâle ou le sexe féminin, parce qu'il semble qu'au Japon, eh bien, on parle d'une personne, par exemple on dit travailleur, mais on ne doit pas forcément dire que la personne elle est travailleuse ou travailleur, ou on ne sait pas, mais c'est une personne, et on ne dit pas si c'est du sexe féminin ou masculin.
Une question, Guy. Tu viens de dire si c'était un homme ou si c'était une femme. Comment était-ce dit en espéranto, est-ce que pour les hommes, on ne rajoutait pas le préfixe vir, qu'on disait juste casisto, et que pour les femmes, on rajoutait le suffixe in? C'était ça le problème ?
Non, le problème, c'était qu'on dit casisto, on n'a pas à savoir si c'est un homme ou une femme, voilà, on n'a pas à le savoir. C'était vraiment. Même très difficile à vivre hein, pour nous, on a l'habitude quand même de pour nous c'est des précisions un petit peu de dire si déjà je sais pas c'était mais au Japon apparemment c'est dans la culture japonaise de
si je peux rajouter juste une précision avec quelque chose quand même qui m'interroge par rapport à ce que tu dis. Moi je ne parle pas le japonais. Et je te crois volontiers lorsque tu dis qu'on ne dit pas si on est un homme ou si on est une femme en langue japonaise. Cependant, ce que j'ai entendu, c'est que la façon de parler est sexuée au Japon. Ce qui veut dire que sans exprimer qu'on est un homme ou sans exprimer qu'on est une femme, on emploie des mots d'homme ou des mots de femme. Alors, encore une fois, cela m'a été rapporté au travers de traductions, mais c'était juste pour nuancer.
C'est peut-être pour ça aussi, oui. Bon, l'ami Kosuke est parti, c'est dommage, mais on prolongera cette discussion. Oui. Voilà. Alors, Kainun.
Kainun.
Qui vient de vous dire riposter ? Char, vous allez à une.
Mi voulez.
A faire une pour dire.
Dire que Baldo mi voulez lerni Esperanton à cause de militon en Bosnio. Mi ne havas un landon. Mi sentas international, no? En Austrujo estas mal facile rekontigi esperantistoj. Ne ekzistas en movado esperantista ne forte.
Aŭ esperantistoj kiuj ne estas en nia movado, ni diru, en nia liberecana movado, nia sociala movado.
En Austrujo ne.
Yes. Donc effectivement, Victor dit que lui, il a essayé d'utiliser l'espéranto. Malheureusement, en Autriche, il n'y a pas énormément de membres, tout au moins de membres aussi qui sont dans la mouvance libertaire ou dans la mouvance sociale. Oui, beaucoup d'espérantistes ont appris l'espéranto pour beaucoup faire du tourisme, des choses comme ça, sans vraiment s'engager dans des choses sociales. Hein, voilà. On dit toujours que bon, c'est... Pourquoi pas, c'est complémentaire dans notre monde. Tu as beaucoup voyagé, par contre. Hein.
Ouais, voilà. Ouais, j'étais en Afrique, j'ai fait un voyage humanitaire jusqu'à Burkina Faso. J'ai traversé Maroc et Mauritanie pour arriver au nord de Mali, à côté de Sahara. À côté de Sahara pour porter un peu de goût humanitaire pour 3 villages et aussi à côté de Ouagadougou, la capitale de Burkina Faso, pour 3 villages, la même chose. Et, ouais, j'ai compris beaucoup là-bas. J'ai compris que tout le monde ici est riche parce que des autres sont pauvres. Et qu'est-ce que signifie que le capitalisme? Tu peux trouver une publicité de Coca-Cola dans le derrière village de Sahara, c'est impossible. Et après, avant 2 ans, 2 mois, j'étais dans la Gaza, strip de Gaza, comme se dit en Gaza. Français, striche de Gaza.
La bande de Gaza.
La bande de Gaza.
Oui, oui, oui.
Et aussi là-bas, j'ai vu que dans quelques régions de ce monde, c'est vraiment difficile de trouver des solutions pour des conflits d'histoire. Des soldats israéliens, ils ont, comment c'est dit en français ?
Tué.
Non, tué, mais...
Visé. Oui.
Visé un groupe de médiativistes indépendants. Parce que nous avons accompagné un travailleur qui travaille sur le camp à côté de Buffer Zone.
Oui.
Chaque jour, des soldats israéliens arrivent pour viser des gens innocents. Non, ils ont fait rien. Ils travaillent sur le camp. C'est incroyable pour moi. J'ai fait des expériences brutales.
Donc Victor de Clariga Salnik et li multe voyagis en cao kai li iris gis Burkina Faso ti Lando qui est li venis por en cao kun porti manja join. Yes, ça se help voyageo por ti ou por la
indépendant.
En Jantoy, Chetier, en Burkina Faso, Kaido, Portillo, Transiris, Multain, Alia, Landoin. Yes, Kaifine, en Kao, qui est le tempo qui reste en Gaza?
En Gaza, Monata.
Tiou Bendo.
Monata.
Ah, yes, c'est ça. Oui, donc, il reste un monaton en Gaza, en Tiou Bendo. Kai tie li travivis en kao strangain kai dirin dangerain momentoin pro la israelai militistoi, yes, contra la popolo, yes.
J'ai pas compris pourquoi le monde ne voit pas ce problème de Palestiniens, non? Parce que chaque jour, il a visé non, des travailleurs. Et personne ne parle de cette chose. Non, j'ai vu qu'après 2 semaines de viser des personnes, normalement, ils ont répondu avec un Qassam rocket, non, missile. Non. Cette chose était tout le monde, tous les journaux du monde, tu peux lire que des agresseurs sont des Hamas, des Palestiniens, ils sont des terroristes.
Yes, yes, yes.
Mais j'ai rencontré beaucoup de jeunes, ils veulent la paix.
Yes, yes.
Et, et Gaza, et le banc de Gaza, est un grand prison.
Yes,
un
yes,
grand
yes,
prison
yes.
avec. Mm-hmm. 1,6 million de personnes, d'habitants.
Et donc, les clérigas qui Gaza facti estas carcero, qui est le carcero, qui est chiutage, tiui soldatoi, bon, n'est pas vaste, c'est almenao, estas agressé mai contra la laboristoi, la palestinanoi, qui am posté, la ferro, estas, il y estas super, tiui laboristoi estas super chutitai, bah, il y en chaos, facté lanchas roqueton ou raqueton on dirait ministias roqueton kai bayes kai la ferro d'avoras kai d'avoras kai nestas jainas qui nestas solvo tout vide blanc encore
kai en kau traduku pri la journalistoi qui on li diris vi memoras li diris que la journalistoi nur menciis la attaquon per roqueton, sed ne menciis la similain simil pafoi dum semainoin, du semainoin, vi diris, tu as dit qu'on visait pendant combien de semaines?
Il visite 12 semaines.
Nous avons senti qu'ils sont entrés des tanks, c'est tanks.
Ah oui,
tanks. C'est dit que tanks. Hein. Et ils ont commencé de mettre à feu des choses que les travailleurs ont, comme c'est dit,
Excusez-moi.
Incendié.
Et nous avons senti de cette chose, nous avons dit nous voulons voir cette chose, nous voulons peut-être filmer. C'était dangereux normalement. Et nous avons nous étions peut-être 100 mètres loin de ce tank. Et ils ont vu que nous voulons filmer.
Ah, filmer.
Mm-hmm. Un sniper, je peux dire sniper.
Mm-hmm. Oui, oui.
Il a descendu et il a pointé à nous. Et nous avons dit, oh, c'est trop risqué. Nous devons aller, sortir. Et peut-être après 100 mètres, ils sont arrivés de Apache hélicoptère. Ouais, de Apache hélicoptère. Ils ont visé derrière de nous pour 100 mètres, 200 mètres. Ils ne veulent pas que quelqu'un filme cette chose. Je n'ai pas compris pourquoi des tanks entrent cette camp pour mettre à feu des choses que les personnes ont besoin pour manger. Et exactement le 1er de mai, le jour des travailleurs.
Mm-hmm.
C'est une provocation forte.
Énorme.
Et personne n'a parlé de cette chose.
Mm-hmm. Yeah, c'est la carigas qui est dans les... Il travaille ici, qui est là où nous avons des maillots, si ce tankoy, Israël, il y a un tankoy qui est venu, c'est un tio loco, qui il y a Fairigis, facté, manja join, qui cresca join en chaos, qui vit la toute agroupo des iris en chaos filmé, hein, pour montrer que, facté, yes, c'est à tenso contre la laboristoi, qui est. Qui facté tout venisse tiu hélicoptère ou qui en tao est ce sniper ou ne dira c'est en espéranto la porto ça c'est
mélégis la nomo opt pas filo opt pas filo
le professeur
hein ah yes
mi légis tiun forton en la libro spite al cio Bosnio pri la radiai el sendoi dum la milito en Bosnio.
Et opt pa filo,
opt pa filo, la opto estas sistema optica.
Ah, yes, true.
Estas optajo miaj oculoj, miaj
oculvitroj.
Oculvitroj estas opto.
Oui, optajo, yes.
Possible.
Ah oui, c'est des fusils avec voilà, c'est des fusils avec visée laser, c'est ça. D'accord. Ah oui, j'étais pas sur le regardant. Oui. Mm-hmm. Oui. Donc voilà.
Mais je veux dire, les Palestiniens, ils sont vraiment tranquilles. Il existe trois mouvements de résistance jeunes. Il existe des mouvements de 15 mars. Et aussi un mouvement de 6 juin. Et un autre groupe, il s'appelle GAIBO, qui signifie Gaza Youth Breaks Out. En français, Gaza Youth Breaks Out. Des jeunes que...
Breaks out?
Breaks out,
yeah. I don't know what means breaks out. C'est les...
Je peux vous aider.
C'est pas important.
Les,
ouais.
Les jeunes de Gaza font quelque chose qui casse dehors.
Ouais, belle libération.
Ouais, se libère.
Ouais,
peut-être.
Ouais.
Mais c'est pas facile parce qu'il existe beaucoup de paranoïa. Parce qu'ils sont beaucoup d'Israéliens infiltrés dans la bande de Gaza. Et la personne, il n'a pas beaucoup de confiance entre eux. Je ne pouvais pas trouver un mouvement anarchiste, malheureusement. Peut-être il existe des personnes individuelles qui font des actions individuelles. Mais je n'ai pas trouvé vraiment des anarchistes. Un mouvement, un groupe anarchiste n'existe pas dans le monde de Gaza. Peut-être à West Bank, je ne sais pas.
Voilà, il y a une facté, les carigas qui est à ce plural mauvaloy, qui est provas liberigi. Estas il y en a une personne qui ou il y en a on y peut pas dire qui ou ben provas en chaos qui veut dire ce malpatié facté libérigé quand etch per forto yes donc on
merci Victor, pour l'écouter
yes. Donc, Nibaldo, on va bientôt finir donc, cette émission. On va dire que donc, il y a le stand de SAT, de la fraction libertaire de SAT, avec beaucoup d'ouvrages. Hein. J'avais cité un petit peu tous les ouvrages qu'on peut trouver sur la table là-bas de présentation. Donc, on se donne rendez-vous à 15h demain, ici à l'Espace Noir. Donc.
Hein,
15h demain, pour tous les gens, 15h demain pour tous les espérantistes, confirmés, les gens qui sont qui veulent parler des langues, hein, même sans être favorables à l'espéranto, puisque il y en a aussi. D'ailleurs, on a tout à l'heure entendu une musique de La Pafclic, sous-titré Fake à l'espéranto, c'est-à-dire merde à l'espéranto. Dans la provocation, on ne peut pas faire plus fort. Voilà.
Ouais, je me plais.
Et puis là, on va entendre Jacques Ivar pour finir l'émission d'espéranto. On donne rendez-vous, voilà, pour les auditeurs d'espéranto, on leur donne rendez-vous eh bien, vendredi prochain à 17h30. Aux environs 2, parce qu'on a toujours, avec l'ami Jean, que je salue, beaucoup de retard. Alors, je remercie ici tout autour des studios. Voilà, il y a Monique, il y a Patrick. Il y avait Aude tout à l'heure qui était ici. Philippe, il y a Serge. Voilà, je tourne le doigt à tout le monde. je suis vraiment mal placé pour. Et puis Anne, là-bas, dans les studios de Radio Libertaire, à Paris.
Merci beaucoup.
Cancun.
Filin, fratineto, sonju pri vieto, kun vivi
en forhasi ilan. Amis en sorgo, nur amicis morto, en lando al vi similan.